Il est 8h à Paris, 6h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Julien et bonjour à tous.
Dans ce journal, l'armée russe intensifie ses attaques en Ukraine.
Les offensives se multiplient à la frontière russe, notamment entre les régions de Soumy et Koursk. La Russie revendique la prise d'un village dans la région de Soumy. Nous serons à Kiev avec Emmanuel Chasse dans un instant. Dans ce journal aussi, c'est une pause fragile. L'Union européenne doit continuer à mobiliser tous les leviers disponibles. Emmanuel Macron met en garde ce matin après la suspension des droits de douane majorés par Donald Trump. Les bourses asiatiques ont chuté ces dernières heures, preuve de l'instabilité de la situation. Dans ce journal, vous entendrez le patron de Mouti, leader européen de la conserve de tomates. Il s'attend à voir arriver en masse des tomates chinoises sur le marché européen. Et puis plus de sérénité en revanche du côté du ministre ivoirien de l'agriculture, la Côte d'Ivoire, poids lourd de la filière du cacao. À suivre également dans cette édition, les États-Unis qui se disent prêts à s'impliquer dans le dossier syrien. Et puis en France, 3 mois après la révélation de l'affaire Betaram, le Premier ministre François Bayrou sera entendu le 14 mai prochain.
La Russie est-elle en train de mener une offensive de printemps en Ukraine ?
Et pour les autorités ukrainiennes, ça ne fait aucun doute. Les forces russes multiplient attaques et bombardements. Les troupes de Moscou ont conquis un village frontalier de la région de Soumy, région voisine de celle de Koursk, où l'Ukraine avait commencé une incursion en août dernier. Bonjour Emmanuel Chasse.
Bonjour Jeanne.
Correspondante d'RFI à Kiev, les Russes revendiquent donc la prise de Jourovka. Quelles sont les réactions côté ukrainien ?
Alors, pas de confirmation de cette prise côté officiel, mais sur le terrain, c'est vrai que les offensives russes se multiplient à la frontière entre les régions de Soumy et Koursk, et où les troupes ukrainiennes maintiennent leur présence à Koursk. Dans cette région, elles nient tout encerclement, comme l'avait annoncé le Kremlin et Donald Trump il y a quelques semaines. De son côté, le général Sirski, le commandant en chef des armées ici en Ukraine, confirme les déclarations faites par Volodymyr Zelensky. Pour le chef de l'armée ukrainienne, l'offensive russe de printemps a bel et bien commencé, et ce, depuis plusieurs jours. Les forces ukrainiennes rapporte 2 fois plus d'offensives russes sur tous les points chauds de la ligne de front. Sur le terrain, Moscou a réalisé des avancées sur seulement 2 secteurs, à l'est, au sud de Pokrovsk et près de Tchaziviar, et dans la région de Kharkiv. Il redouble d'efforts pour l'instant sans succès pour être à portée d'artillerie de la ville de Kharkiv à 30 de kilomètres de la frontière russe, une ville qui est fréquemment visée par les bombes russes. Et puis pour vous donner une idée de l'intensité de ces combats, sur l'ensemble du front pour la seule journée d'hier, on dénombre plus de 4 200 attaques terrestres, plus de 100 bombes planantes et plus de 900 drones kamikazes qui ont été lancés contre les troupes ukrainiennes. Sur le moyen terme, cependant, la proportion de territoire nouvellement occupé par la Russie est en net ralentissement depuis 5 mois consécutifs.
Emmanuel Chasse, merci, en direct avec nous de Kiev. Côté américain et russe, c'est un signe du réchauffement diplomatique en cours. Le 2e échange de prisonniers depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. La russo-américaine Ksenia Karelina est arrivée par avion hier soir près de Washington. Elle avait été condamnée à 12 ans de prison l'an dernier en Russie pour avoir donné $50 à une association ukrainienne. Elle a été échangée à Abu Dhabi contre le germano-russe Artur Petrov, accusé par la justice américaine d'avoir soutenu l'effort de guerre russe en Ukraine.
C'est une pause fragile et l'Union européenne doit continuer à mobiliser tous les leviers disponibles.
La mise en garde ce matin d'Emmanuel Macron sur le réseau social X au lendemain des déclarations de la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a menacé de taxer les géants de la tech américaine en cas d'échec des négociations avec Washington. Les entreprises européennes, elles, craignent désormais une concurrence chinoise accrue, car avec les droits de douane prohibitifs des États-Unis sur les produits chinois, l'Europe pourrait importer encore plus. Francesco Muti est le PDG du leader européen de la tomate en conserve. Il s'est exprimé au micro RFI de Léonard Jochen.
C'est un produit pas de luxe. On parle à des consommateurs qui veulent manger bien, car les consommateurs reconnaissent la qualité.
Qui dit qualité, dit prix. Et les taxes douanières américaines ont beau avoir été coupées par 2 ce jeudi, Francesco Muti va devoir augmenter le prix de vente de ses tomates aux États-Unis. Il prévoit une baisse des ventes avec une question amère.
Pourquoi les États-Unis ont décidé de bloquer vraiment une relation très positive avec l'Europe dans ce moment, qui est un moment dans lequel déjà on a des problèmes très très importants au niveau du monde.
Et sur le marché européen, Francesco Muti anticipe déjà l'arrivée des tomates chinoises en nombre, désormais persona non grata sur le marché américain. Et selon le chef d'entreprise, pour éviter que cette concurrence tire la qualité des produits vers le bas, l'Union européenne doit réagir.
La première chose serait de faire connaître aux consommateurs dans une manière claire la provenance de la tomate, avec des contrôles très rigides. Car c'est différent si je pense d'acheter un produit qui est produit en France, en Italie ou d'autres, ou bien il y a dedans un produit chinois.
Il espère que ces contrôles seront mis en place par l'Europe et va jusqu'à préconiser l'usage de tarifs européens contre la Chine.
Léonard Jochem, du service économie d'RFI.
En Côte d'Ivoire, on affiche plus de sérénité.
Oui, après la mise sur pause des droits de douane majorés par Donald Trump, les exportations vers les États-Unis représentent 4% des échanges commerciaux ivoiriens, principalement le cacao, et le ministre de l'Agriculture ivoirien semble assez serein. Kobenan Kwasi Adjoumani estime qu'en cas de nouvelle hausse de tarifs douaniers, c'est le consommateur américain qui va payer la facture. Écoutez.
Ce sont les consommateurs qui vont en subir les conséquences. Parce que lorsque vous taxez notre produit que nous exportons dans votre pays, mais nous aussi, nous allons augmenter le prix du cacao et cela va avoir une répercussion sur le prix au consommateur. Donc, nous ne perdons pas. Si vous mettez 21% de taxes, mais nous allons augmenter notre produit de 30%. Et c'est le consommateur final qui va s'en trouver lésé. Donc je crois que c'est une mesure qui est impopulaire et nous demandons aux États-Unis de revoir sa copie.
Le ministre ivoirien de l'Agriculture au micro de Binta Diagne. Les Gabonais appelés aux urnes. Demain, scrutin qui doit décider du futur président. Pendant les 7 prochaines années, 8 candidats en lice. Hier, le chef de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, a tenu ses 2 derniers meetings. Aujourd'hui, la journée a été déclarée fériée par le gouvernement.
8h07 à Paris, l'Iran affirme donner une véritable chance à la diplomatie.
Une déclaration ce matin du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Alors que s'ouvre demain des pourparlers avec les États-Unis à Oman, l'Iran qui précise que l'Amérique devrait apprécier cette décision qui a été prise, en dépit de sa rhétorique hostile. Ces derniers jours, Donald Trump avait en effet réaffirmé que l'option militaire contre l'Iran restait possible en cas d'échec des discussions sur le nucléaire. Les États-Unis qui se disent prêts par ailleurs à servir de médiateur entre la Turquie et Israël, alors que la Turquie, principal allié du nouveau régime syrien, cherche à renforcer sa présence militaire en Syrie. Perspective combattue vivement par Israël. C'est dans ce contexte qu'Ahmed al-Shara, le nouveau président syrien, est attendu en visite en Turquie. Aujourd'hui, décryptage avec Guilhem Dattey.
C'était le 7 décembre dernier, à quelques heures de la fuite de Bachar el-Assad de Damas. Alors président élu, Donald Trump écrivait sur les réseaux sociaux « La Syrie est un désastre, mais elle n'est pas notre amie. Les États-Unis ne devraient rien avoir à faire avec ce pays. » Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a pas retiré les troupes américaines présentes en Syrie au nom de la lutte contre le terrorisme, mais il n'avait pas fait du pays une de ses priorités. Une distance qui a fait le jeu des principales puissances militaires de la région, la Turquie et Israël. Avec un engagement américain assez faible, les deux pays ont pu agir en Syrie. Ankara, en cherchant à prendre l'espace laissé par l'Iran et la Russie, soutient du régime Assad. Israël, en bombardant des sites pour empêcher tout renforcement militaire du nouveau régime syrien et occupant une partie plus large du territoire de son voisin. Mais les intérêts des deux pays sont opposés et le bras de fer, pour l'instant, contenu pourrait conduire à une escalade. Donald Trump a donc proposé une médiation entre le président turc et le premier ministre israélien, avec lesquels il revendique une proximité. Mais sera-t-il un médiateur neutre ? Lundi, il a apporté un soutien à Recep Tayyip Erdogan et demandé à Benjamin Netanyahou d'être raisonnable.
Guilhem Dattey du service international d'RFI. En plus bref, une famille de 5 touristes espagnols, dont 3 enfants et un pilote, tué à New York dans le crash d'un hélicoptère. L'appareil s'est abîmé dans le fleuve Hudson. Nouvel accident mortel sur fond de trafic incessant dans les airs de la mégalopole. Les images de l'accident sont horribles, a écrit Donald Trump sur son réseau social, Truth Social, en demandant à Dieu de bénir les victimes. Il a promis des annonces rapides sur les causes de l'accident.
En France.
en France. 3 mois après la révélation de l'affaire Betaram, le Premier ministre François Bayrou sera entendu le 14 mai prochain.
Et entendu par la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les établissements scolaires, annonce en conférence de presse de la députée Ensemble, Violette Spilbou, et du député insoumis Paul Vannier, tous deux co-rapporteurs de la commission. L'annonce tombe alors que des témoins clés auditionnés hier ont maintenu leur version contre François Bayrou. Victorien Villaume.
L'ancien gendarme Alain Hontan était chargé d'enquêter sur un viol qu'aurait commis un religieux à Betaram en 1998. Il évoque une intervention du Premier ministre.
Il m'a dit, monsieur Hontan, la présentation est retardée. Le procureur général demande à voir le dossier. Il y a eu une intervention de monsieur Bayrou.
Le député LFI Paul Vannier voit là une révélation et la preuve que François Bayrou a menti sur sa connaissance des faits.
Un ancien gendarme contredit point par point les déclarations du Premier ministre et nous renseigne sur le fait que François Bayrou, dès 1998, était informé des faits de violences sexuelles, de viols à Betaram. François Bayrou, en 1998, est député et il ne fait rien.
Cela fait un mois que la commission d'enquête enchaîne les auditions. Le 14 mai, face aux éléments probants recueillis, dit Paul Vannier, François Bayrou devra tenir un discours de vérité.
Si l'on ment à une commission d'enquête, on s'expose à des poursuites en justice pour parjure et c'est ce contexte qui doit réunir les conditions nous permettant enfin d'accéder à la vérité. Qu'est-ce que François Bayrou savait? Qu'a-t-il fait? Que n'a-t-il pas fait? Et pourquoi?
Il n'y a aucun nouvel élément. J'ai donné sur cette affaire tous les éléments, avait balayé il y a un mois pendant un déplacement le chef de gouvernement.
Victorien Villaume du service politique.
Et puis on termine en musique avec la chanteuse française Gabi Hartmann.
Oui, elle vient de sortir son deuxième album intitulé La femme aux yeux de sel. 14 chansons entre jazz et folk. Kédemon Sadaka a écouté pour nous.
Je cherche Kédemon au passé, dans l'ailleurs, dans l'après.
Gabi Hartmann s'était fait connaître en 2023 avec un album qui avait généré plus de 20 millions d'écoutes et qui s'était écoulé à plus de 15 000 exemplaires. De bonnes performances qui lui ont ouvert les portes de festivals de jazz renommés, que ce soit en France ou à l'étranger. Ce nouveau disque, La femme aux yeux de sel, tourne autour d'une jeune femme prénommée Salinda, Gabi Hartmann.
C'est un espèce de conte que j'ai construit autour d'une héroïne féminine qui est née avec une malédiction. Elle a des yeux remplis de sel et dès qu'elle pleure, elle perd un peu de ses yeux. Elle a peur de devenir aveugle. Alors elle part à la recherche d'un remède pour soigner ses yeux. Et c'est un peu le démarrage de l'histoire de ce nouveau disque.
Cet album est aussi le fruit de belles collaborations. On y entend notamment le saxophoniste Laurent Barden ou encore la flûtiste syrienne Naysam Jalal.
Gabi Hartmann, actuellement en tournée après la Suisse. Cette semaine, elle sera en Allemagne au mois de mai, puis au Japon. À noter aussi une date parisienne, ce sera le 13 octobre prochain au Trianon.
Vous y serez, Jeanne Bertoli?
Peut-être.
Eh ben peut-être, on verra bien. Merci beaucoup, Jeanne. RFI Matin, la suite, c'est un nouveau point sur l'info africaine dans un peu plus d'un quart d'heure. D'ici là, notre grand invité international, le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre en France. Mais tout de suite, les sports. Avec vous Antoine Grenier, en football, quart de finale aller de la Ligue Europa, pas de vainqueur entre Lyon et Manchester United.
Des Lyonnais pourtant auteurs de l'ouverture du score sur une erreur d'André Onana, le gardien mancunien qui évalue mal un coup franc de Thiago Almada. Les Red Devils ont réagi en marquant deux fois, mais les Gones ont arraché le nul à la 95e minute. Un but de Ryan Cherki, de quoi motiver le Lyonnais avant le match retour.
Je pense qu'on mérite encore mieux que le match nul. On a fait un gros match, on a bien respecté les consignes du coach. Maintenant, on sait qu'un quart de finale, c'est un match aller, un match retour. On va aller là-bas pour gagner, rien d'autre. Quand on voit qu'ils viennent avec deux milieux défensifs, c'est qu'ils nous craignent particulièrement. J'espère que là-bas, ils vont pas faire la même chose, parce que nous, on va y aller pour jouer offensivement et pour prouver qu'on a un très bon football et avoir une seule idée en tête, la victoire.
Ryan Cherki chez nos confrères de Canal+. Match nul également entre les Glasgow Rangers et l'Athletic Bilbao 0-0, pendant que l'Eintracht Francfort est allé chercher le nul, un partout sur la pelouse de Tottenham. Seuls les Norvégiens de Bodø Glimt auront créé la surprise en prenant un petit avantage sur la Lazio de Rome avec un succès 2-0.
Après les Coupes d'Europe, retour aux affaires domestiques avec la reprise des championnats, notamment en France.
29e journée de Ligue 1, elle démarre sur un match symbolique pour Will Steele. Le technicien belge de Lens accueille Reims, son ancien club, face à des Rémois barragistes qui luttent pour leur survie en championnat. Les Lensois, 9e, rêve d'Europe, confirme leur entraîneur.
On est toujours bien positionné. Alors forcément, on aurait aimé avoir une dizaine ou une quinzaine de points en plus, mais on est réaliste par rapport à ce qu'on a fait et par rapport à ce qu'on fait. Mais je pense que si on compare avec les années précédentes, on n'est pas si loin en termes de points. Et je le dis, le sprint final, si t'es bien positionné juste avant qu'il commence, bah tu te donnes des chances pour embêter les équipes devant. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et tant qu'on continue à gagner des matchs, on va continuer à embêter du monde. Je dis pas que tout est parfait, loin de là. Mais il faut prendre confiance des petites choses qui sont encourageantes. On a gagné 3 de nos 4 derniers matchs. Oui, on a perdu un derby qui était pas bon, mais on a une des meilleures défenses du championnat. On s'est adapté, on a changé des choses, on a continué à pousser. Tout n'est pas à jeter non plus.
Lance-Reims, coup d'envoi à 18h45 temps universel.
Et on termine avec le tennis, Antoine, le Masters 1000 de Monte Carlo avec les quarts de finale ce vendredi.
Et un match particulièrement attendu. Carlos Alcaraz, l'Espagnol, vainqueur à Roland-Garros l'an passé, face à Arthur Fils, le Français, 20 ans, 15e mondial et le joueur qui monte avec un 3e quart de finale d'affilée en Masters 1000 après Indian Wells et Miami. Et ça le rend ambitieux. Il vise le top 10 et le quart de finale face à Carlos Alcaraz, qu'il n'a jamais affronté, est une bonne façon de se jauger.
Ouais, ça va être la première fois. Ça va être la première fois que je le joue. Donc ça va être, c'est une bonne expérience. C'est un immense champion. Il a déjà gagné 4 grands chelems. Ouais, donc bon. Voilà, j'en ai pas gagné un seul. Hein. Donc ça va être vraiment une bonne expérience. On va voir, mais dans tous les cas, un très très bon match à jouer.
Arthur Fils, Carlos Alcaraz, premier service prévu à 10h30 temps universel. Avant ça, l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina affronte l'Australien Alexei Popirine. Et puis ensuite, Grigor Dimitrov se mesurera à l'Australien Alex de Minaur. Puis Stefanos Tsitsipas, 8e joueur mondial, jouera contre l'Italien Lorenzo Musetti.
Merci Antoine Grenier.
RFI Matin.
Et bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Julien.
Dans Aujourd'hui l'économie, on revient évidemment sur la volte-face de Donald Trump, la pause déclarée mercredi par le président américain qui a allégé entre guillemets les surtaxes douanières, 10% pour quasiment tout le monde pour les 3 prochains mois. Mais Trump concentre désormais tous ses efforts contre un État, pas de trêve dans la guerre commerciale contre la Chine, avec désormais 145% de taxes douanières. Une mesure qui va frapper de plein fouet, Stéphane, les petits producteurs chinois.
Oui, car ils représentent un secteur vital de l'économie du pays. Ils sont des dizaines et des dizaines de milliers. Ce sont ces manufactures de taille moyenne qui produisent tout ou partie des biens importé depuis la Chine. On peut notamment penser à des producteurs de vêtements, de sacs, de machines ou encore d'équipements de cuisine. Ces structures, comme le précise le New York Times, ce sont des ateliers familiaux, voire semi-industriels, et ils dépendent fortement de la demande internationale. Leur principal argument, évidemment, Julien, c'est la production à très bas coût.
Oui, car avec des droits de douane de 145%, c'est toute la chaîne de production qui s'écroule de la Chine aux États-Unis.
Précisément. Prenons, par exemple, un t-shirt qui sort de ces ateliers chinois et qui est à destination de New York. La pièce va être produite, puis elle va prendre un bateau direction les États-Unis. Disons que symboliquement, tout cela va coûter 10 dollars à l'exportateur, sauf qu'il va devoir appliquer 145% de taxes. La valeur du t-shirt va donc augmenter et passer à 24,5 dollars. À ce montant, il faut aussi ajouter la marge du commerçant qui va vendre ce t-shirt dans sa boutique de Brooklyn. Mais avec un tel prix, il va être difficile, c'est le moins que l'on puisse dire, de trouver preneur.
Et c'est là que les producteurs chinois souffrent, puisque si l'on suit votre exemple, les exportateurs vont essayer de rogner sur le prix du t-shirt.
Voilà, mais ces structures sont déjà à la limite de la rentabilité, essorées par les grossistes qui tentent d'acheter au prix le plus bas. Ce qu'il se passe aujourd'hui, ce sont donc des commandes annulées par les importateurs américains. Résultat, la production est bloquée, les stocks s'accumulent sans trouver d'acheteurs. Bref, la perte est sèche pour ces ateliers, ce qui en bout de chaîne implique des suppressions d'emplois.
Mais Stéphane, est-ce que ces producteurs ne peuvent pas trouver d'autres solutions, comme par exemple se tourner vers le marché chinois?
Alors Julien, c'est compliqué puisque le marché domestique est saturé, marqué par une demande en baisse, difficile donc d'écouler les stocks. On peut imaginer en effet une recherche de nouveaux marchés, mais les volumes sont très loin de compenser la perte du marché américain. Car on le rappelle, l'an passé, ce sont 440 milliards de dollars de produits fabriqués en Chine qui sont arrivés aux États-Unis. Et puis pour ne rien arranger, les entreprises chinoises sont déjà frappées par une surcapacité industrielle. Concrètement, leurs entrepôts débordent.
Pourtant, la Chine réplique aux mesures de Donald Trump.
Car symboliquement, il est difficile de rester sans répondre devant de telles décisions. Au niveau national, le gouvernement tente aussi de juguler la situation. L'État notamment vient de recapitaliser les grandes banques qui ne sont pas en forme. Les plans de relance ont certes permis de soutenir la croissance, mais à court terme. Et la grande question, Julien, finalement, c'est de savoir comment tout l'écosystème industriel et manufacturier chinois va faire face durant les prochains mois.
Stéphane Genest, pour aujourd'hui l'économie, merci beaucoup. Il est 8h19 à Paris, où vous nous écoutez sur le 89 FM. Sur RFI, notre grand invité international ce matin est le chef d'état-major de l'armée de terre française. Il est à votre micro, Arnaud Pontus.
Bonjour Général Pierre-Gilles.
Bonjour.
Merci d'accorder cet entretien à RFI. La guerre en Ukraine continue. Le président américain a rouvert le dialogue avec le président russe. Il sermonne les Européens. Il s'engage aujourd'hui dans une guerre commerciale avec la Chine. Est-ce qu'on est en train d'assister à un moment de bascule géopolitique ?
Je le pense. Je pense que nous sommes en train de rentrer dans un monde d'intimidation, dans lequel les rapports de force sont la règle, et que dans ce monde d'intimidation et de rapports de force, il faut être fort.
Oui, un monde d'intimidation, un monde de chaos aussi, général.
Alors l'objectif pour un pays tel que le nôtre, c'est d'éviter que ce monde d'intimidation bascule dans le chaos. L'objectif est de peser sur notre destin. Je pense que pour notre pays, pour la France, mais plus globalement pour les pays européens aujourd'hui, c'est bien là l'enjeu,
oui,
peser.
Peut-on peser avec une donnée telle d'imprévisibilité, notamment avec ce président américain ?
Oui, en tout cas, cette réalité d'imprévisibilité, c'est un fait. Comment pouvons-nous peser, prendre en compte cette imprévisibilité ? C'est une question d'être fort, d'être déterminé, d'employer les outils de la puissance dans toutes les dimensions, diplomatiques, économiques, culturelles et militaires.
Pierre Gilles, il y a un mois, le président français Emmanuel Macron alertait, la menace russe est à nos portes. Quelle est la nature de cette menace aujourd'hui ?
Cette menace, elle pèse sur les pays qui sont à l'est de l'Europe. Ces pays nous disent qu'ils considèrent avoir une menace existentielle à leurs frontières. Or, nous avons donné notre parole et notre signature à ces pays. Nous sommes dans une coalition qui s'appelle l'OTAN et dans laquelle l'attaque contre un des membres de la coalition doit être considérée par les autres comme une attaque et un impératif de réponse. Nous pouvons donc avoir à aider ces pays qui sont confrontés à l'adversaire russe.
Oui, à cette menace, comment est-ce qu'elle se concrétise, cette menace ? Est-ce que vos homologues européens de l'Est vous font part de choses particulières, de pressions particulières venues de Russie ?
Alors, la menace russe, elle se concrétise par la pression, vous l'avez dit, et notamment la Russie a développé un arsenal militaire absolument formidable au cours des dernières années, par lequel il comptait peser sur son voisinage. Mais depuis février 2022, et ça avait déjà été le cas depuis 2014, la Russie, concrètement, a employé son outil militaire pour asservir, pour mettre... pour tordre la volonté de son voisin ukrainien. Et donc, cette agression est une agression contre l'ensemble des Européens au sens où c'est une intimidation.
Oui. On n'a pas malgré tout de connaissances de plans d'attaque militaire russe contre un pays de l'OTAN. Nous n'en sommes pas là, général.
Alors l'OTAN a pour objectif de dissuader. C'est-à-dire que nous devons peser sur notre avenir, nous pouvons peser sur notre avenir, nous devons dissuader, nous devons être déterminés, nous pouvons agir. Il n'y a pas de fuite ou de bascule inéluctable vers la guerre. C'est le propre de la dissuasion. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous devons nous montrer forts pour éviter une bascule vers le chaos.
Mais est-ce que l'OTAN peut rester assez forte avec un allié aussi turbulent que l'allié américain ?
Alors l'OTAN, c'est plusieurs choses d'un point de vue du point de vue du militaire que je suis. C'est une alliance entre un certain nombre d'États, une alliance défensive. Donc effectivement, le fait que un de ses alliés, les États-Unis, nous dise depuis plusieurs années, peut-être de manière plus brutale au cours des dernières années, je ne veux pas être obligé de défendre les Européens. Il faut que nous entendions ce message. Mais l'OTAN, c'est aussi un outil pour permettre l'interopérabilité, c'est-à-dire d'avoir des procédures communes entre différentes armées. C'est aussi toute une structure de commandement. Et donc, ces éléments interopérabilité, structure de commandement, capacité partagée, elles demeurent. Et elles demeureront même si les Américains décidaient de se retirer un peu, de se retirer plus, davantage.
De se retirer totalement.
Voire de se retirer totalement, même
c'est
si...
C'est possible. L'OTAN sans les États-Unis, c'est possible.
Je ne sais pas vous dire ce qui lancera, mais ce qui est certain, c'est que l'OTAN, dans ses structures, dans ses moyens de commandement, est l'outil de la défense collective des Européens. Elle le sera si, malheureusement, les États-Unis s'en retirent.
Oui. Quelques mots de la situation militaire sur le front ukrainien. Est-ce que vous observez des mouvements notables, des changements dans l'équilibre des forces ?
Les combats, à ce stade, en Ukraine, sont des combats d'usure. Avec de masses énormes militaires qui se tiennent à la gorge et qui tentent de s'asphyxier. Il semble que dans une linéarité, finalement, la force russe progresse de manière continue, oui. Même si c'est réduite en Ukraine. Maintenant, cette guerre, la suite de la guerre n'est pas écrite. Et elle n'est pas forcément linéaire.
Ça veut dire que la victoire militaire russe n'est pas inéluctable ?
Elle n'est pas du tout inéluctable. Au contraire, dans le sens où les Ukrainiens, et nous l'avions vu avec l'attaque de Koursk, sont capables de peut-être d'abord de tenir, ce qu'ils font, et de se battre de manière absolument extraordinaire, mais peut-être aussi de passer à côté, de réussir à porter le fer ailleurs et à retourner la situation.
Les Américains tentent de parvenir à un cessez-le-feu. Dans le cas d'un accord et d'une décision politique, est-ce que l'armée de terre française aurait les moyens humains et logistiques de se déployer pour assurer une mission de maintien de la paix en Ukraine, si la décision politique était prise, ce qui n'est pas le cas en général ?
La question qui est devant nous est celle de la défense de l'Europe. Est-ce que les Européens veulent peser sur leur destin? Est-ce que les Européens veulent avoir les capacités de se défendre? L'application concrète de cette question aujourd'hui, c'est en Ukraine. Pour moi, il n'y a pas de question que la France se déploie seule. La France est aujourd'hui dans une coalition. Et demain, s'il y avait décision pour concerter pour des mesures de garantie de sécurité en Ukraine ou autour de l'Ukraine ou auprès de l'Ukraine, ce serait forcément une réponse en coalition.
Une réponse collective.
Une réponse collective.
En l'espace de 3 ans, on a assisté au retour de la guerre en Europe et aussi au départ successif de forces françaises qui étaient basées en Afrique. Comment est-ce que l'armée de terre s'adapte aujourd'hui à ce qui est une nouvelle donne ?
Alors l'armée de terre, comme toutes les armées, mais l'armée de terre française en particulier, s'est toujours adaptée. Elle s'adapte aujourd'hui. Le monde change, nous nous adaptons. Cette adaptation, elle est une redirection de nos forces. Nous avons déployé un certain nombre de forces à l'est de l'Europe, en Roumanie, en Estonie, en Pologne. C'est une adaptation sur notre façon de nous entraîner, c'est une adaptation sur nos structures. Avec cette loi de programmation militaire 2024-2030, par laquelle la France consacre une part importante de sa richesse à sa défense, 2% de sa richesse nationale, qui nous permet d'adapter nos équipements, mais aussi notre formation, notre entraînement à cette nouvelle donne.
Et est-ce que vous avez assez de matériel, d'hommes, pour répondre aux menaces qu'on évoquait au début de cet entretien ?
Alors, je dirais qu'on n'a jamais assez de moyens face à un ennemi aussi, ou des adversaires aussi puissants que la Russie aujourd'hui et un monde aussi incertain avec des menaces aussi urgentes. Mais mon rôle, et je l'assume, et en vérité, c'est de, avec les moyens que la France consacre à sa défense et qui sont des moyens importants, de trouver les meilleures solutions et des solutions qui sont pour notre pays, d'avoir à la fois un équilibre entre une souveraineté des capacités d'action autonomes et des capacités nation-cadre, c'est-à-dire d'afficher sa détermination qui permette de dissuader un adversaire, de rassurer des alliés, de créer des coalitions et de les emmener.
Merci Général Pierre Schill.
Merci à vous.
Le Général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre en France, grand invité international de RFI ce matin. Merci Arnaud Pontus. Il est bientôt 6h30 en temps universel et l'info revient dans moins de 2 minutes. A tout de suite.
RFI à Seychelles-Anse, 102.8 FM.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, bien se nourrir quand on manque d'appétit.
Conseils nutrition pour retrouver le goût de manger pour une alimentation santé.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
80% de l'énergie mondiale provient encore des énergies fossiles. Allons-nous enfin réussir à nous désintoxiquer ? Eh bien, c'est compliqué avec l'administration Trump, bien sûr, mais aussi en termes d'emploi, comme vous le découvrirez avec notre reportage en Écosse.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Musique du monde. Laurence Alloire.
Selman Faris et Sofian Fanen sont nos invités. Selman Faris présente son album Kaplan, voyage vers l'Est. Kaplan signifie tigre en turc. Une humeur féline, héritée du papa, le flûtiste Kutsi Agüner. De son côté, Sofian Fanen caracole sur du dancehall français, du frafra ghanéen et du reggaeton colombien. C'est la fête.
Musique du monde. Laurence Alloire.
Samedi, à partir de 20h10 TU.
RFI.